Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du service de santé des armées et plus généralement de toute la question, de toute la problématique de la médecine militaire, j'ai le plaisir de recevoir le médecin-chef Pierre Pasquier. Alors, comme votre titre l'indique, vous êtes donc médecin militaire, de spécialité anesthésiste-réanimateur, ce qui, évidemment, est particulièrement stratégique dans l'univers de la médecine de guerre, médecin-chef, ce qui est équivalent au sein du service de santé des armées, qu'on va peut-être tout de suite appeler le SSA, je pense qu'on gagnera du temps à l'échelle d'une émission, qui est donc l'équivalent du grade de colonel, et présentement adjoint du service réanimation de l'hôpital d'instruction des armées Percy, qui est l'un des grands hôpitaux militaires français. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
Merci beaucoup et merci de m'accueillir.
Alors, je vais dire tout de suite que je suis très heureux de vous recevoir et de pouvoir donc parler de la question de la médecine militaire, parce que c'est une question qu'on n'a pas encore abordée dans le podcast et qui me travaille depuis un moment. Je voulais notamment traiter il y a quelques mois, au plus fort, disons, du début de la crise du Covid, parce que la médecine militaire est arrivée très vite sur le devant de la scène et notamment s'est imposée, on en reparlera, mais l'image de la médecine de guerre. Et à ce moment-là, le SSA a pris sa part de l'effort de soins, et on en parlera, parce que vous avez occupé une fonction importante à ce moment-là, notamment au sein de l'élément militaire de réanimation de Mulhouse, qu'on a beaucoup vu sur le devant de la scène à cette époque-là. Alors, j'ai donc pas pu faire cette émission à l'époque et sur le moment, mais c'est très bien dans l'absolu que ça ait surgi, puisque c'est un sujet dont on parle trop peu et qu'on détaille trop peu, en tout cas dans le discours général sur le fait militaire. Et en même temps, d'un autre côté, quand on parle avec des militaires, pour le coup, c'est au contraire tout à fait apparent, notamment ceux qui ont été blessés ou qui ont eu des blessés proches d'eux en OPEX, par exemple, savent très bien ce qui est dû au SSA. Alors, pour commencer à cerner peut-être ce qu'est la médecine militaire et ce qu'on y fait, une première porte d'entrée serait peut-être de vous demander comment on devient, comment vous êtes devenu médecin militaire. Et pour le formuler un peu plus précisément, est-ce qu'on devient d'abord médecin ou est-ce qu'on devient d'abord militaire? C'est-à-dire, à quel niveau du cursus de médecine, c'est-à-dire si tant est d'ailleurs que ce soit le même que le cursus civil, est-ce qu'on vous prend et on vous recrute dans les armées? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que c'est après de vos études de médecine?
Alors, il y a plusieurs modalités pour intégrer la médecine militaire. Moi, je vais vous parler dans un premier temps de mon expérience personnelle. Et puis, dans un deuxième temps, je vous exposerai les différentes modalités qui font qu'on peut devenir médecin militaire à bien des échelons, depuis le post-bac immédiat jusqu'à lorsque un médecin est déjà diplômé et peut intégrer le service de santé des armées. Donc, mon expérience personnelle, c'est que j'ai suivi une voie relativement classique, qui est d'un concours au moment du baccalauréat, qui permet d'intégrer à l'époque une des écoles du service de santé des armées à Bordeaux ou à Lyon. Et donc moi j'étais à l'école qu'on appelait traditionnellement école de santé navale pour la marine et les colonies, qui est donc l'école du service de santé des armées à Bordeaux. Donc j'y ai suivi mon cursus d'études médicales au sein de la faculté civile Victor Ségalen. Et puis en complément de cet enseignement médical, nous avons des enseignements militaires dédiés et des enseignements de médecine militaire, plus spécifiquement à la fin de notre cursus.
Alors c'est double deux. Enfin, on sait que déjà le cursus de médecine n'est pas particulièrement reposant, surtout les premières années. Vous, en plus, vous aviez tout un module militaire, en plus de votre charge de travail d'étudiant de médecine, quoi.
Voilà. Tout au long des études médicales, c'est rythmé par des grands rendez-vous pour la formation militaire pure, on va dire. C'est des brevets militaires, que ce soit des brevets de parachutiste militaire, brevet d'alpiniste militaire, de plongée, et puis également un enseignement, et c'est surtout ça qui fait la grande singularité des études de médecine militaire, des enseignements qui sont dédiés à l'apprentissage de ce qu'est en elle-même la médecine militaire.
Très bien. Alors, donc ça, c'est une option. Directement, en sortant du bac, en quelque sorte, vous signez pour devenir médecin militaire et donc c'est inscrit dans tout votre cursus. Mais donc, il y a d'autres portes d'entrée. On peut arriver à d'autres moments. On peut être déjà médecin et décider de faire un peu de temps dans les armées.
Exactement. Alors, tout d'abord, lorsqu'on est étudiant en médecine civile, on a la possibilité d'intégrer au cours de ses études médicales l'école du service de santé des armées à Lyon, donc maintenant l'école de santé militaire. Et cela est possible aux différentes années des études médicales. Et puis après le passage de l'examen national classant, on peut également, lors de l'internat, ce qu'on appelle traditionnellement l'internat, ou en fait le troisième cycle des études médicales, les étudiants peuvent intégrer le cursus militaire. Ça, c'est vrai pendant les études médicales et c'est vrai également après les études médicales, donc lorsqu'on est déjà docteur en médecine, avec des possibilités d'intégrer soit sous forme de contrat de durée variable, et également la possibilité d'intégrer le corps de réserve opérationnelle en tant que médecin.
Mais alors, j'allais dire c'est pour tous les médecins, mais enfin, en fait ça permet de poser la question de... Il y a tout dans la médecine militaire. Je veux dire, on perçoit bien que, par exemple, un anesthésiste réanimateur comme vous, on en a besoin, ou des orthopédistes, des chirurgiens, des psys, enfin, on perçoit que c'est des choses qui sont utiles par rapport aux opérations, par rapport aux blessures qu'on peut trouver sur un théâtre de guerre. Mais est-ce qu'il y a aussi des médecins, je sais pas, très généralistes, ou même des spécialités qu'on imagine moins directement militaires, enfin, je sais pas, des gastro-entérologues, des dermatologues, enfin, est-ce que c'est toute la médecine qui peut être médecine militaire, ou est-ce que, bon, quand même, il y a un cœur de métier et de spécialité, quoi?
Alors, la mission première du service de santé des armées, c'est le soutien médical des forces armées. Et donc, à ce titre, on met souvent en avant les actions médicales à l'avant, que soit sur les théâtres d'opérations extérieures, mais il y a également toute l'importance du conseil au commandement d'une part, et puis d'autre part de la préparation même opérationnelle des militaires qui sont projetés. Et donc, à ce titre, toutes les spécialités médicales sont représentées, spécialités médicales, mais également spécialités chirurgicales. Et donc, vous avez des chirurgiens, des urologues, vous avez des chirurgiens thoraciques, vous avez des médecins gastro-entérologues, cardiologues, pneumologues, neurologues. Voilà. Donc, vraiment, l'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales sont représentées.
Oui, mais c'est marrant, parce que, du coup, ça part un peu du principe que les armées, c'est un peu tout le monde, que les militaires ne sont pas limités à un spectre de pathologies. Et que donc il faut de toute façon des gens pour traiter tout ce qui peut arriver à un militaire, c'est ça?
Exactement. Alors c'est la mission première du service de santé, donc le soutien médical des forces armées, mais également une des missions du service de santé des armées, c'est de participer à la mission de santé publique. Et donc à ce titre, notamment dans les hôpitaux d'instruction des armées, on soigne également des patients civils.
Ah ouais, d'accord. Non mais c'est-à-dire s'il y a un besoin en particulier. Oui, justement, sous quelles conditions est-ce que vous traitez un patient civil? C'est-à-dire, est-ce que n'importe qui peut se retrouver dans un hôpital militaire, ou est-ce que c'est s'il y a un médecin, un chirurgien militaire, je sais pas, qui a une compétence précise qu'on lui envoie des civils? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que c'est ouvert, un hôpital militaire, en fait, au reste de la société, quoi?
Alors, l'ouverture dans le cadre de cette mission de participation à la santé publique est entièrement libre. C'est-à-dire qu'un patient qui décide de venir consulter dans un hôpital d'instruction des armées est tout à fait autorisé à le faire. Et donc les spécialistes des hôpitaux d'instruction des armées sont tout à fait disposés et ont une longue habitude d'accueillir ces patients civils et de les soigner conformément aux règles de l'art.
D'accord, mais... Et alors ensuite, c'est... On reste toute une carrière médecin militaire, ou est-ce que c'est de la même manière que pour un militaire, souvent par exemple c'est par contrat, quoi, par séquence de 5 ans, 10 ans, etc. Et puis il y a un moment où on sort, on va faire autre chose, le cas échéant grâce aux compétences qu'on a acquises dans les armées. Est-ce que c'est un peu la même chose pour médecin militaire, c'est-à-dire on fait son temps sous l'uniforme et puis au bout d'un moment on va ouvrir un cabinet normal et passer à une vie un peu plus traditionnelle de médecin? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est des portes coulissantes faciles, quoi?
Alors, on peut avoir plusieurs vies dans une même vie. Et effectivement, lorsqu'on a une carrière militaire, selon la durée du lien au service qui nous lie à l'institution, eh bien, on peut avoir une deuxième partie de sa carrière qui est une carrière civile, voilà, puisqu'on a un diplôme de médecin, et c'est vrai pour les médecins, mais c'est également vrai pour les paramédicaux, les diplômes d'infirmiers, d'aides-soignants ou de techniciens médico-techniques dans les hôpitaux, des manipulateurs en radiologie ou de laborantins. Voilà. Donc chacun peut avoir, selon le lien au service qui est signé dans son contrat, avoir une deuxième partie de carrière civile ou décider, tout au contraire, de passer l'ensemble de sa carrière au sein de l'institution.
Mais et inversement, alors vous nous avez parlé un peu des différentes portes d'entrée quoi, vers le service de santé des armées au début. Inversement, est-ce que y a des passerelles plus tard? C'est-à-dire, est-ce que si un médecin a fait une première carrière civile et qu'il se dit qu'il ferait bien, qu'il très très bien des blessures par balle, enfin je sais pas si, en tout cas s'il se dit qu'il y a une partie de la médecine militaire qui l'intéresse, est-ce que c'est possible d'intégrer le service de santé des armées, ou est-ce que vous les prenez jeunes et que c'est important de les former dès le début quoi?
Alors il n'y a pas de limite d'âge dans le recrutement à ma connaissance, et donc si on prend l'exemple des médecins, effectivement un médecin même dans une deuxième partie de sa carrière civile peut décider d'intégrer le service de santé des armées sous forme d'un contrat de durée à déterminer entre les deux parties.
Alors du coup ça nous amène vers la question de ce qu'on y fait exactement, c'est-à-dire de ce que c'est que la médecine militaire, même si on l'a un peu abordé déjà en filigrane. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à quel point, alors vous avez aussi commencé à évoquer le fait qu'il y a plein de métiers différents et que c'est pas la même chose d'être chirurgien, médecin, mais justement on va en parler. Mais du coup, à quel point est-ce qu'on est proche du contact quand on est médecin militaire? Là, par exemple, donc vous êtes en poste dans un hôpital d'instruction des armées, un gros hôpital militaire en région parisienne, en l'occurrence. Donc vous traitez des blessés, mais vous les traitez en quelque sorte en bout de chaîne, assez loin des théâtres d'opération. J'imagine bien qu'il doit y avoir des médecins qui sont plus proches directement des unités en action et que vous avez dû y passer, mais à quel point? C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, on parle souvent des infirmiers dans certaines unités. Ça fait partie du service de santé des armées? Est-ce que c'est autre chose? Quel lien, c'est-à-dire jusqu'où le service de santé des armées étend en quelque sorte ses ailes au plus proche des opérations quoi?
Alors la doctrine du service de santé des armées repose sur plusieurs piliers. Et le premier pilier, c'est la médicalisation de l'avant. Et donc on envoie des équipes médicales, et qu'on entend le terme équipe médicale, c'est des médecins, mais des infirmiers également, des aides-soignants, des auxiliaires sanitaires au plus proche des combats. Ça, c'est vraiment une spécificité des armées françaises.
Ça, c'est pas partout pareil.
C'est pas partout pareil. D'autres nations ont fait des choix différents, de laisser plutôt en retrait les équipes médicales et de favoriser une évacuation qui soit la plus rapide et la plus précoce, mais en tout cas non médicalisée. Voilà, les armées françaises ont fait un choix différent. Et c'est une longue tradition du service de santé des armées que de déployer au plus près des combats ces équipes médicales. Alors ça, c'est le premier pilier, la doctrine d'emploi du service de santé des armées en opération. Donc la médicalisation de l'avant et la chirurgicalisation de l'avant. Le deuxième pilier sont...
La chirurgicalisation, c'est-à-dire si besoin, il faut pouvoir faut pouvoir vraiment faire des actes très proches des théâtres, quoi.
Exactement. Alors, quand on prend l'exemple un peu typique du blessé par arme de guerre, c'est surtout un blessé hémorragique qui perd beaucoup de sang, et donc le principal intérêt, ou l'enjeu principal plus exactement, c'est de pouvoir arrêter le plus rapidement possible le saignement et d'encadrer cet arrêt du saignement, qui est un arrêt chirurgical, par des techniques de réanimation de façon à pouvoir opérer un patient encore vivant. Et donc le deuxième pilier de la doctrine du service de santé des armées, c'est celui des évacuations médicales précoces. Et donc dans les 48 premières heures au maximum, le blessé de guerre va arriver sur le territoire national et être pris en charge dans un hôpital d'instruction des armées de référence.
Ouais, c'est-à-dire s'il y a un blessé en Afghanistan ou au Mali, il n'est pas traité en Afghanistan ou au Mali, c'est en France que va être fait son soin, enfin, au-delà de la stabilisation de pouvoir le transporter, mais c'est en France qu'il va s'agir de vraiment le traiter, c'est ça?
Alors il n'y a pas vraiment de dichotomie entre l'avant et la prise en charge sur le territoire national, il s'agit plutôt d'une solution de continuité, et donc c'est une véritable chaîne de survie du blessé de guerre qui est mise en œuvre dès les lieux de la blessure, par le combattant lui-même ou par ses camarades, et ça c'est l'enseignement du sauvetage au combat. Et ce sauvetage au combat se déroule tout au long de la prise en charge, avec l'arrivée dans ce qu'on appelle une antenne chirurgicale, où on va retrouver une équipe d'anesthésie-réanimation et de chirurgiens qui va permettre effectivement de stabiliser l'état du blessé, de permettre son évacuation médicale vers le territoire national. Et donc c'est vraiment une prise en charge continue depuis les lieux de la blessure jusqu'à la cicatrisation définitive et la réhabilitation du blessé sur le territoire national.
Oui, mais ce que j'allais dire, c'est jusqu'à quel point est-ce que vous faites la chose vous-même, enfin, au service au sein du SSA, et dans quel point est-ce que vous essayez ou pas de déléguer à des soldats, normaux, quoi, en les formant, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous essayez qu'ils soient capables quand même d'être autonomes, en tout cas dans une certaine mesure. Et parce que c'est un peu la même question, de jusqu'où est-ce qu'on envoie des infirmiers et des médecins proches du contact. Je sais pas, par exemple, j'imagine qu'il peut pas y avoir un médecin dans tous les convois, ni dans tous les véhicules. Donc dans quelle mesure est-ce que vous essayez de faire en sorte qu'une unité soit quand même suffisamment autonome en cas de besoin? Et dans quelle mesure est-ce que vous dites, il faut quand même diffuser des personnels du SSA un peu partout, quoi.
Effectivement, dans un monde idéal, on placerait une équipe médicale derrière chaque combattant, mais malheureusement, ce n'est pas réalisable. Et donc, en ce sens, il y a un enseignement, effectivement, du sauvetage au combat, donc qui est décliné en plusieurs niveaux. Et le sauvetage au combat de premier niveau concerne les combattants eux-mêmes. Et donc, on enseigne au sein des armées, aux combattants eux-mêmes, à réaliser des gestes de sauvetage immédiats qui consistent à arrêter les hémorragies extériorisées à l'aide de pansements ou de garrots dits tactiques, également à libérer les voies aériennes et enfin à mettre dans une posture de sécurité en attendant justement la prise en charge par les équipes médicales du service de santé des armées.
Mais est-ce que vous avez des objectifs, enfin je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, mais par exemple en termes de distance au premier médecin ou au premier infirmier, ou en termes de temps jusqu'à ce qu'il y ait un personnel du SSA qui prenne en charge un blessé, enfin, parce que bon, on en reparlera après, mais j'imagine que ça influe aussi sur la manière dont on conduit des opérations, de pouvoir ou pas avoir des antennes médicales plus ou moins proches, quoi.
Exactement, donc ça c'est un enjeu fort pour les armées, de pouvoir disposer d'un maillage médical qui soit suffisant pour prendre en charge dans un délai idéal les blessés de guerre, par exemple. Mais on parle beaucoup des blessés de guerre, mais il y a aussi...
Mais c'est quoi un délai idéal?
Un délai idéal, c'est le délai le plus court possible pour stopper l'hémorragie. Et ce qui a été décrit et relativement unanimement reconnu au sein des différentes nations et par les experts médicaux internationaux, c'est de cibler une durée de prise en charge inférieure à une heure par une équipe d'anesthésie-réanimation et de chirurgie.
Mais alors, si on essaye, parce que là, on est aussi dans des choses de principe, mais c'est très bien parce que ça permet de cadrer, mais pour suivre en quelque sorte un parcours de médecin, vous, par exemple, comment est-ce que vous avez commencé? C'est-à-dire, dans quelle unité, dans quel régiment, qu'est-ce que vous y faisiez? C'est-à-dire, c'est quoi le parcours d'un médecin militaire intégré à une unité, un régiment? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs à quel niveau vous êtes intégré quand vous commencez, mais c'était quoi votre première insertion, disons, dans une unité, quoi?
Alors là encore, il y a différentes possibilités pour être déployé. Je vais vous parler donc de mon expérience personnelle. Donc dans un premier temps, à la fin de mes études médicales, j'ai été diplômé en médecine générale. Donc j'étais spécialiste de médecine générale et j'ai exercé au sein d'un centre médical du régiment de marche du Tchad, qui était à l'époque situé à Noyon, dans l'Oise, en Picardie. Et puis ensuite, j'ai présenté et réussi le concours d'accès à la spécialité d'anesthésie-réanimation, où j'ai suivi ma formation dans les facultés parisiennes, avant d'être par la suite spécialiste en anesthésie-réanimation et projeté dans des antennes chirurgicales parachutistes ou dans des structures de chirurgie vitale.
Mais alors, c'est bête, mais quand vous êtes intégré à un régiment, ça revient un peu à la question liminaire de médecin ou soldat ou les deux, dans quelle proportion, quoi. Et c'est bête, mais vous êtes armé, vous tirez, vous vous entraînez à ça, par exemple quand vous êtes en régiment au quotidien et puis ensuite quand vous êtes en opération.
Alors, c'est pas la mission première, évidemment, des équipes médicales que d'utiliser des armes. Néanmoins, évidemment, nous y sommes formés et cela fait même partie des grands enseignements du sauvetage au combat, qui est de pouvoir engager des soins en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se précipiter vers un ou plusieurs blessés sans avoir assuré la sécurité de l'environnement pour la prise en charge de ces blessés. Et donc, à ce titre, effectivement, nous sommes armés et capables de nous défendre et de sécuriser, avec l'appui évidemment des premiers intéressés qui sont les combattants eux-mêmes, avant de pouvoir intervenir sur des blessés.
Ouais, mais j'y pense, c'est pas banal quand même pour un médecin, enfin je veux dire, dans la... Non mais même c'est ça, j'imagine qu'il doit vous différencier aussi des autres médecins, enfin à un moment, c'est-à-dire la capacité à... Enfin je sais pas, oui, à faire une action offensive, quoi. C'est pas banal quand on pense au rôle du médecin et à l'état d'esprit du médecin, enfin pendant les études de médecine, qui est de soigner avant tout, quoi, de l'idée qu'on peut au contraire être amené à blesser quelqu'un, quoi.
Alors, c'est un dilemme éthique, ouais. Évidemment, qui est largement appréhendé depuis de très nombreuses années maintenant. Et donc, vraiment, ce ne sont pas stricto sensu des actions offensives qui sont menées, mais qui sont bien des actions défensives et qui consistent surtout, qui font partie des soins à apporter aux blessés. Donc, si on ne peut pas intervenir dans des conditions de sécurité, on ne peut pas soigner le blessé. Donc la prise en charge globale du sauvetage au combat inclut effectivement la sécurisation de la zone d'intervention.
Et si on revient à votre parcours, c'est quoi qu'est-ce que vous identifieriez comme votre baptême du feu? C'est-à-dire, c'est si vous en avez eu un. Hein. Enfin, c'est-à-dire, c'est très large. Hein. Ça peut être avec des balles qui fusent de partout, ou pas du tout. Ça peut être juste la première fois que vous avez eu un blessé par balle. Mais qu'est-ce que, dans votre tête, en tout cas dans votre mémoire et dans votre conception de votre parcours, c'était quand votre baptême du feu?
Le baptême du feu, c'est d'abord un baptême qui se passe en équipe. Et donc, j'étais à l'époque anesthésiste réanimateur à la 14e antenne chirurgicale parachutiste et nous avons eu à prendre en charge des blessés d'attaques terroristes. Voilà. Donc, ce sont des blessés par armes de guerre. C'était à la fois des blessés civils et des blessés militaires. Et donc, c'est vraiment là où prend tout le sens du métier de médecin militaire, voilà, d'être intégré au sein des forces et d'être capable de prendre en charge à la fois des patients militaires, des combattants blessés, mais également des blessés civils. Et ça donne vraiment beaucoup de sens à notre mission et à l'interaction qu'il peut y avoir entre la médecine militaire et la médecine civile.
Et c'était c'était la première fois que vous voyiez que vous soigniez des blessés par balle, parce que moi, j'imagine qu'on peut reproduire plein de choses pendant l'entraînement médical. On peut voir plein de pathologies différentes. Et des blessures par balle sur le vif, c'est pas banal, heureusement, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ça arrive pour la première fois, quoi? Comment est-ce qu'on appréhende ça?
Alors, on appréhende ça avec le plus de calme possible, parce que ce sont évidemment des situations de grand stress. Et donc, nous sommes particulièrement bien formés aux techniques pour réagir en situation de crise. Et donc, une fois de plus, c'est vraiment un travail d'équipe et il y a à la fois les compétences techniques qui sont importantes, c'est-à-dire la façon d'administrer du sang, de réaliser une transfusion massive, la façon de conduire une chirurgie pour arrêter un saignement lors d'une blessure par balle, mais il y a également l'ensemble des compétences liées aux facteurs humains et donc du fonctionnement en équipe. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes entraînés en équipe principalement et pas à l'échelon individuel. Ça, l'échelon individuel, c'est l'accumulation du savoir-faire lié aux connaissances médicales ou à la pratique médicale, mais ce savoir-être en équipe fait vraiment la force des équipes médicales du service de santé.
C'est-à-dire en équipe avec des gens qui ont déjà vu ça, si possible, qui sont capables de vous guider. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais j'imagine que la première fois qu'on voit des blessures par balle et des hémorragies qui saignent énormément, ça doit être c'est une épreuve de vérité, enfin l'épreuve du feu pour le coup, quoi.
Alors vous avez entièrement raison, c'est une épreuve du feu et c'est une épreuve du feu à laquelle on est somme toute bien préparé. Et effectivement, depuis de longues années maintenant, le service de santé des armées a fait le choix de former ses équipes avant leur projection en opération extérieure à l'aide de techniques notamment de simulation où on va, grâce à des séances de simulation médicale, faisant appel à des mannequins à haute fidélité, pouvoir entraîner les équipes de façon efficace, apprendre soit d'abord de façon crescendo, on va dire, progressive, d'abord un blessé hémorragique et puis peut-être deux blessés ou jusqu'à un afflux massif de blessés,
Vous avez des mannequins qui saignent beaucoup vous avez des mannequins qui sont faits pour ça, qui saignent dans tous les sens et il faut réussir à tout stopper en même temps.
Exactement, alors ça les équipes de médecins militaires ou les équipes médicales militaires ont une longue tradition d'entraînement d'une part et puis de retour d'expérience d'autre part, et donc c'est une démarche de qualité qui nous permet d'améliorer nos pratiques et de mieux préparer progressivement nos équipes.
Et puisque on était sur cet exemple de donc vous étiez projeté et donc vous avez dû gérer des victimes d'un acte terroriste, donc à la fois militaire et civil, c'est toujours la question de la distance, c'est-à-dire est-ce que vous étiez loin ou pas, mais la question plus large, c'est est-ce que vous vous êtes déjà senti menacé, vous en tant que médecin au cours d'une opération, est-ce que vous êtes déjà dit, vous avez déjà senti en quelque sorte la vulnérabilité que sentent les soldats quand ils sont en opération, quoi?
Alors de nombreux médecins militaires ressentent ce sentiment d'insécurité. Là encore, nous y sommes préparés. À titre personnel, lorsqu'on est déployé sur un camp militaire et qu'il y a des alertes intrusion, c'est-à-dire l'intrusion d'ennemis au sein du camp militaire, eh bien on a une formation spécifique pour savoir comment se protéger. Alors ça, c'est mon exemple personnel. Il y a aussi des médecins, notamment des médecins d'unité, des équipes médicales d'unités très opérationnelles qui sont projetées, eux, vraiment au plus proche des combats. Et donc, ce sentiment d'insécurité est bien légitime et tout à fait justifié. Là encore, il s'agit de bien s'y préparer.
Mais même, ça pose la question de votre... C'est-à-dire, je ne sais pas quel est votre statut, en fait, d'un médecin par rapport à un combattant. Est-ce qu'on est censé vous laisser tranquille par rapport aux droits de la guerre, c'est-à-dire on essaye de pas blesser les soignants, même si de toute façon c'est toujours possible de se prendre une balle perdue quoi qu'il arrive. Ou est-ce que vous êtes vraiment membre d'une armée puisque vous soignez des soldats français et que en tant que tel vous êtes plus ou moins considéré comme une cible comme n'importe quel soldat français?
Alors malheureusement, les conflits récents ont vu évoluer la considération des ennemis pour les soignants. Et donc il y a malheureusement de nombreux, il y a des médecins, des infirmiers, des auxiliaires sanitaires qui ont été blessés au combat. Et on a encore l'exemple très récent d'un de nos camarades qui est décédé.
C'est une évolution ça, c'est croissant depuis, depuis des années, des décennies. Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on est capable de mesurer.
Depuis plusieurs décennies, en tout cas, dans les conflits modernes, qui sont des conflits caractérisés par leur côté asymétrique et non conventionnel. Et donc, c'est effectivement dans ces conflits asymétriques et non conventionnels, qui font appel à des belligérants, qui ne reconnaissent probablement pas la légitimité du droit de guerre ou des conventions de Genève, par exemple.
Mais dans les conventions de Genève, on est censé pas toucher aux médecins, aux infirmiers, aux soignants.
C'est ça.
Ouais. Mais oui, parce que en plus c'est quelque chose qu'on dit relativement souvent, assez récemment, notamment avec les attaques aux IED, c'est qu'il y a il y en a souvent deux, quoi. Il y a souvent le premier pour la première attaque, et il y a souvent une deuxième attaque pour les secours, quoi. Enfin, je sais pas, au sein du service de santé des armées, au sein plus généralement des soignants dans les armées. C'est un souci croissant, ce truc-là.
Alors, c'est un souci constant, en tout cas, plus que croissant. Et c'est effectivement, ça rejoint un petit peu la question que nous abordions précédemment, qui est pourquoi est-ce que des équipes médicales sont armées et en quoi cela peut être légitime.
Non, mais alors du coup, dans quelle mesure vous êtes identifiable ? En fait, c'est-à-dire vous avez un uniforme différent, vous avez des véhicules différents, vous avez des, je sais pas, vous signifiez de manière spécifique dans ce cadre-là, ou vous êtes en treillis comme n'importe quel soldat français, quoi.
Alors, comme tout militaire projeté, on revêt un uniforme, effectivement, des armées. Donc, il n'y a pas de signe distinctif. Et en particulier, les croix rouges ont été retirées des véhicules de l'avant médicaux, de façon à ne pas être identifiés par l'ennemi, à ne pas être ciblés spécifiquement, d'une part. Et puis, d'autre part, les équipes médicales sont séparées lorsqu'il s'agit du soutien médical d'un convoi, par exemple. Et donc, on va mettre le médecin dans un véhicule et l'infirmier, par exemple, dans un autre véhicule, de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas cibler plus spécifiquement le soutien médical du convoi.
C'est un médecin, un infirmier. Enfin, j'imagine que ça dépend des situations, mais...
Tout dépend de la taille de la mission, du volume de combattants soutenus, et donc le soutien médical s'adapte en nombre et en compétences selon le niveau d'intensité de la mission.
Mais du coup, vous avez, c'est bête, mais vous avez votre mot à dire sur la planification, la stratégie, les opérations qui se montent ou pas. Ah, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes là pour soutenir une mission parce qu'il y a un besoin opérationnel, donc il faut la faire, donc il faut que le SSA accompagne, quoi. Ou est-ce que on vous consulte et vous pouvez dire non, là, c'est pas une bonne idée, on n'est pas assez, enfin, c'est sous-dimensionné. Quel est votre rôle, disons, dans la chaîne décisionnaire par rapport à ça, quoi?
Alors, les opérations sont planifiées avec le conseil médical du service de santé des armées et on va dimensionner effectivement l'importance de ce soutien médical selon l'intensité de la mission.
Donc, dans les réunions d'état-major, au moment de planifier les trucs, il y a un médecin, voilà. il y a quelqu'un du SSA pour donner son avis pour adapter aussi par rapport à ses moyens derrière, quoi.
Exactement. En tout cas, le commandement demande l'avis du service de santé des armées pour le soutien médical et adapte sa mission et le niveau de soutien médical à l'intensité de cette mission. You never leave.
Alors, est-ce que on pourrait maintenant peut-être détailler c'est-à-dire on voit l'organisation, on voit la logique, comment ça fonctionne, mais si on essaye de prendre un exemple concret, est-ce qu'on pourrait détailler en quelque sorte les différents échelons, les différentes distances de la chaîne de soins du SSA pour évacuer un blessé, pour le prendre en charge? Par exemple, si on a un blessé par engin explosif dans un véhicule blindé au Mali, je prends cet exemple parce que c'est pas totalement aléatoire, c'est quelque chose que l'actualité nous a rappelé récemment, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est quelque chose dont on parle par ailleurs régulièrement dans des épisodes dans le viseur, donc je pense que c'est assez concret pour les auditeurs. Qu'est-ce qui se passe? Un blessé est blessé par un IED, son véhicule saute sur un engin explosif, mais en admettant qu'il est blessé sérieusement, donc il faut l'évacuer, ça se passe comment à partir de là?
Alors, très concrètement, première action, ce sont des actions immédiates de sauvetage au combat par le combattant lui-même ou par ses camarades pour, comme nous l'avons dit, arrêter les hémorragies à l'aide d'un garrot tactique, libérer les voies aériennes ou administrer une sirette de morphine, par exemple. l'équipe médicale composée d'un médecin, d'un infirmier, d'un auxiliaire sanitaire va très rapidement arriver pour médicaliser ce blessé et permettre son évacuation la plus rapide possible vers le premier échelon médico-chirurgical.
Alors ça veut dire quoi médicaliser par rapport au premier truc que vous nous avez dit, les garrots, etc. C'est quoi la médicalisation?
C'est administrer des produits sanguins labiles, donc transfusés déjà dès l'avant, poser des perfusions, arrêter, compléter l'arrêt des hémorragies, prendre en charge une détresse respiratoire. Donc il y a un haut niveau de technicité qui est déployé dans cette médicalisation de l'avant. Il y a ensuite une phase d'évacuation dite tactique qui va amener le blessé, là encore, dans une prise en charge, au cours d'une prise en charge médicale à bord le plus souvent d'un hélicoptère ou d'un avion.
Précisons, c'est l'idéal, c'est de pouvoir évacuer par les airs.
En tout cas, de la façon la plus rapide possible. Si, évidemment, l'attaque par engin explosif improvisé a eu lieu à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres de la première unité médicale opérationnelle, on ne perdra pas le temps à déployer un vecteur aérien. En tout cas, le deuxième temps va se passer au sein de la première unité médico-chirurgicale, qui est l'antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage, donc qui est une antenne dans laquelle on a une douzaine de personnels, qui sont des équipes d'anesthésie-réanimation et de chirurgie vitale, qui vont permettre de stabiliser l'état du blessé en poursuivant sa réanimation, et en réalisant des gestes de chirurgie de sauvetage de façon à pouvoir permettre l'évacuation du blessé.
Alors c'est quoi chirurgie de sauvetage? Enfin, si on prend quelqu'un qui s'est pris un effet de blase, qui a peut-être des, enfin, parce que c'est souvent ça quand il y a un engin qui saute, quoi. Donc je sais pas, il a peut-être des hémorragies internes, en tout cas il est inconscient, etc. C'est quoi le genre de geste, quoi?
Alors le genre de geste, ce sont des gestes chirurgicaux qui consistent à stopper l'hémorragie, soit en colmatant la brèche du vaisseau qui saigne, soit en liant directement le vaisseau, et en tout cas, dans tous les cas, à stopper le plus rapidement possible et le plus efficacement possible la blessure qui saigne. Et donc le deuxième temps de réparation définitive se fera ultérieurement et le plus probablement en France. Et c'est pour ça qu'il y a ce deuxième pilier de la doctrine du service de santé des armées, qui est une évacuation stratégique vers le territoire national, avec là encore une équipe médicalisée, avec l'appui le plus souvent pour les blessés les plus graves d'un anesthésiste réanimateur, et puis l'accueil au sein des hôpitaux d'instruction des armées de référence pour les blessés de guerre les plus graves. Il s'agit de la CHI à Percy.
Et ça, c'est quoi? C'est 48 heures, quoi. En 48
au
heures...
Au maximum, dans les 48 heures, le blessé, effectivement, arrive sur le territoire national.
Et vous y arrivez toujours? Enfin, je veux dire, vous avez une moyenne en dessous de ça? Enfin, concrètement, si on garde notre soldat qui est blessé au Mali, en général, au bout de combien de temps vous arrivez à les faire arriver?
Alors la règle est toujours la même, c'est le plus rapidement possible. Et effectivement, en moyenne, on estime que dans les 24 heures, le blessé va arriver en France. En tout cas, l'objectif maximal à ne pas dépasser. Et donc on tend toujours à effectuer cette manœuvre le plus rapidement possible. Et dans tous les cas, en dessous de 48 heures. Et donc en moyenne, aux alentours de 24 heures. Entre le moment de la blessure sur le théâtre de guerre et l'arrivée sur le territoire national.
Et alors c'est bête, mais les médecins qui l'ont pris en charge, l'infirmier, ils font quoi? Ils l'accompagnent ou ils restent avec les unités? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les médecins sont attachés à un blessé qui va être évacué, ou est-ce qu'on considère que le plus important, c'est que le médecin soit dans l'unité et reste dans l'unité? Enfin, je sais pas, comment est-ce qu'on conçoit ça?
Alors, les médecins qui ont pris en charge initialement le blessé restent sur le territoire pour poursuivre leur mission. Donc, ils ne sont pas attachés à un blessé, mais ils sont attachés à une mission. Et puis, le blessé est pris en charge par des équipes médicales successives, à bord des hélicoptères, à bord des avions, à bord des antennes de réanimation de chirurgie de sauvetage, et puis enfin, à bord et au sein des hôpitaux d'instruction des armées.
Et c'est bête, mais ils sont... psy aussi, enfin, ou formés à des considérations psy, les médecins. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Enfin, en plus, on a eu un épisode récemment là-dessus de récits d'évacuation, mais en gros, c'est quand même assez traumatisant pour des soldats de voir un camarade partir et de pas le voir. C'est-à-dire, est-ce que l'accompagnement de ceux qui restent, notamment psychologique, fait partie du rôle du médecin militaire, ou est-ce qu'il y a des psys qui dont c'est le rôle et que c'est complètement séparé? Jusqu'où est-ce que ça s'arrête, quoi?
Alors, la blessure psychique est une réalité, elle est prise en charge intégralement, effectivement, par le service de santé des armées, mais également avec l'aide de psychologues qui sont insérés au sein des forces armées. Et donc, effectivement, les équipes médicales sont formées à la prise en charge des blessures psychiques sur le terrain, mais également au retour de mission lorsque le militaire va revenir et peut-être déclencher à distance un stress traumatique.
Mais c'est des catégories séparées, ou l'idée c'est quand même que les médecins du SSA, les médecins infirmiers, assurent l'essentiel de la mission de soutien psychique, quoi? Ou est-ce que c'est vraiment l'idée qu'il faut quand même qu'il y ait des... Non, parce qu'on sait que une blessure touche une partie, la blessure physique touche une partie généralement des soldats, la blessure psychique touche à des degrés différents, mais toute l'unité, voire au-delà, quoi.
Alors, il n'y a pas de distinction, effectivement, qui est faite entre blessure physique et blessure psychique, en tout cas en termes de prise en charge. C'est une prise en charge qui n'est pas différenciée, qui est éminemment prise en compte et qui, effectivement, va impliquer l'ensemble des soignants, que ce soit aussi bien pour les blessures physiques que pour les blessures psychiques du blessé lui-même ou de ses camarades.
Et quel échelon vous avez préféré, vous? Puisqu'on a bien compris qu'il y a plein de missions, il y a plein de distances différentes au terrain, aux opérations. C'est-à-dire, est-ce que vous avez préféré, quand vous étiez très proche de l'action, c'est-à-dire quand vous aviez ce moment où j'imagine la rapidité d'action joue beaucoup sur le pronostic vital, sur ce qui se passe, ou au contraire, est-ce que vous êtes content d'être à un stade un peu plus loin, donc à la fois où vous pouvez vraiment soigner les blessures de manière satisfaisante, et puis sur une échelle de temps un peu plus longue, quoi. Enfin, j'imagine que c'est une question de goût, mais puisque vous êtes là, je vais vous poser la question.
Alors c'est probablement la diversité qui fait la richesse du métier. Et alors, à titre personnel, moi ce qui me plaît surtout, c'est d'avoir connu l'ensemble des échelons de la prise en charge des blessés sur les théâtres de guerre, depuis le plus proche des combats, au sein des antennes de réanimation de chirurgie de sauvetage, à bord des avions pour rapatrier des blessés sur le territoire national, et puis enfin quand on les accueille, et puis surtout quand on les voit revenir quelques mois après leur séjour en réanimation, sur leurs deux pieds, ou alors parfois encore blessés sur un fauteuil roulant, mais en tout cas souriant et reconnaissant, et c'est probablement là la plus belle des victoires.
Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il y a seulement certains médecins qui peuvent venir revoir. Enfin, c'est-à-dire, si le médecin qui les a pris en charge, à un moment est toujours sur le théâtre, c'est un lien qui est mine de rien rompu en quelque sorte, même si on peut toujours se retrouver après. Mais j'imagine que c'est pas tous les médecins militaires ne peuvent pas avoir ce même lien au personnel qu'ils ont soigné, quoi.
Alors le lien est effectivement différent selon chaque médecin, mais le médecin d'unité reverra également le militaire blessé quelques mois après.
Vous faites attention à ça? Enfin, je veux dire, c'est une préoccupation qu'il puisse se revoir après?
Alors bien sûr, il y a un accompagnement et un suivi des blessés après la blessure et après la réhabilitation qui est attentif effectivement au bien-être du blessé, mais également au lien qu'il peut avoir, s'il le souhaite d'abord, avec les équipes médicales qui l'ont pris en charge.
Mais alors, en fin de compte, qu'est-ce que... Puisque, par exemple, vous êtes dans un hôpital, donc dans un hôpital d'autant plus on a compris qu'il traitait aussi des civils, qu'est-ce qui distingue la médecine militaire de la médecine générale? Vous direz, c'est-à-dire une question...
De la médecine civile
De la médecine, pardon, civile, oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est le type de blessure ou de pathologie plus généralement? Je veux dire, dans le civil, on doit quand même voir rarement des blessés par balle ou par explosion ou des stress post-traumatiques. Ou est-ce que c'est, je sais pas, une relation à l'urgence, à gérer des conditions et des contextes difficiles pour faire ces actes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le civil?
Alors, le lien ou la différence avec entre la médecine militaire et la médecine civile est finalement assez ténue. La médecine militaire, c'est de la médecine. C'est le contexte dans lequel est réalisée ou appliquée cette médecine qui diffère. Et donc, il y a effectivement un contexte d'emploi qui est singulier et propre à l'exercice militaire. En revanche, les grands principes de prise en charge, lorsqu'on saigne parce qu'on a eu un accident de la voie publique à moto, ou lorsqu'on saigne parce qu'on a eu une blessure par arme de guerre, finalement, les grands principes se rejoignent et probablement se renforcent mutuellement de l'expérience l'un de l'autre.
Alors, pour finir, j'aimerais parler un peu de ce que j'évoquais en introduction, à savoir ce qui s'est passé autour du Covid, puisque bon, on peut rappeler que le SSA est intervenu, vous avez été à la manœuvre, pour ce qui a été en tout cas l'un des symboles de cet investissement, c'est-à-dire l'élément militaire de réanimation de Mulhouse, les grosses tentes vertes devant lesquelles Emmanuel Macron s'est notamment exprimé, mais en pleine vague en pleine première vague de Covid, quand les hôpitaux de l'Est de la France notamment débordaient un peu, notamment les éléments de réanimation. Donc déjà, est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler exactement ce qu'a fait le service de santé des armées à ce moment-là, et puis ensuite on détaillera un peu ce que ça veut dire, parce que c'est vraiment intéressant.
Alors les actions ont été multiples. Effectivement, il y a eu le déploiement de l'élément militaire de réanimation à Mulhouse, exactement, pour venir aider les réanimations de l'hôpital Émile Müller, qui est donc l'hôpital civil à Mulhouse. Il y a eu d'autres actions qui ont été de participer d'abord au conseil, là encore une expertise du service de santé des armées, au conseil, aux tutelles, voilà, pour la prise de décision de santé publique. Le maintien de la capacité opérationnelle des militaires, mais également la participation à des évacuations médicales. Là encore, c'est un savoir-faire typiquement militaire à bord d'avions, notamment pour des évacuations aéromédicales collectives de patients atteints de Covid dans un état grave.
Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce que vous diriez a été le principal apport du SSA ? C'est-à-dire, est-ce que c'est des bras et des lits, mais qui étaient nécessaires, parce qu'il y a eu un moment où il y en avait vraiment besoin, quoi. Il y avait vraiment des besoins de lits de réa, quoi. Ou est-ce qu'il y avait vraiment des choses sur lesquelles la médecine militaire a apporté, disons, à la communauté des soignants face au Covid, des savoir-faire très spécifiques qu'on développe en contexte de guerre, enfin, en contexte de médecine militaire, qui ne sont pas forcément communs en médecine ?
Alors, sont à la fois des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Pour le service de santé des armées dans la crise Covid, c'est effectivement pas uniquement des bras et des lits qui ont été apportés, une capacité à déployer en urgence, c'est-à-dire à monter en moins d'une semaine un service de réanimation complet d'une trentaine de lits au sein sous des tentes militaires, ça c'est un savoir-faire unique. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas de dans les la médecine hospitalière civile, en tout cas, cette capacité ou ce savoir-faire, et donc ça, c'était vraiment un apport. Voilà. D'autre part, le fait de pouvoir réaliser sur de longues distances des évacuations aéromédicales de malades graves atteints de la Covid, depuis les régions les plus engorgées vers les régions moins engorgées, plutôt de l'ouest de la France. Là encore, ça a été un savoir-faire spécifique au service de santé des armées. Et il n'y a pas, à ma connaissance, dans le monde civil, en tout cas en France, de capacité à réaliser ces évacuations aéromédicales collectives, par exemple.
Et le service de santé des armées peut se le permettre, enfin pouvait se le permettre. C'est-à-dire, je pense qu'on a fait une émission avec. Il y a un projet de recherche, notamment au sein de l'IRSAM, sur l'investissement des armées, dans le traitement de la crise. Mais c'est-à-dire, les médecins militaires, le service de santé des armées a des missions. Il est dimensionné pour un certain nombre de missions au quotidien, et c'est très bien qu'il ait été mobilisé pendant la crise parce que voilà, il a apporté des choses qui étaient nécessaires. Mais il faut bien continuer à faire les missions et le SSA est pas forcément dimensionné pour soigner toute la France ni pour fournir des lits d'appui sur plusieurs mois voire une année comme ça va bientôt être le cas. Donc c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les capacités de la médecine militaire voilà, dans quelle mesure est-ce qu'il faut retourner aux missions traditionnelles du SSA, parce que au bout d'un certain temps, la médecine des armées ne peut pas s'occuper de tout, quoi.
Alors, deux points. Le premier point, c'est que le service de santé des armées n'a pas abandonné ses missions princeps, qui sont celles de soutien médical des forces armées et qui sont également de maintien de la capacité opérationnelle des forces armées à être projetées sur les théâtres de guerre. Donc, ce sont des missions qui sont venues se surajouter à ces missions principales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le service de santé des armées est une institution militaire aux ordres des chefs militaires et en particulier du chef des armées, c'est-à-dire le président de la République. Et lorsque le président de la République annonce le 16 mars le déploiement d'un hôpital militaire de campagne dans le Grand Est de la France, eh bien le service de santé des armées obéit à cet ordre et c'est relativement simple.
Bien sûr, mais formulons-le comme ça, à l'échelle de quoi, 10 mois maintenant, est-ce que la sollicitation, puisque cet hôpital militaire il a été démonté, enfin il est plus actif en ce moment, est-ce que la sollicitation du SSA a baissé, c'est-à-dire est-ce que on a pu envisager un retour à la normale, ou est-ce qu'il y a toujours une mobilisation forte, je sais pas, pour les évacuations, etc. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que le SSA, à l'heure actuelle, par exemple, est sollicité pour faire des missions, disons, à l'échelle de la population française plus générale, quoi.
En fait, le service de santé des armées assure une astreinte opérationnelle permanente. Et donc, au fur et à mesure de la crise, selon les besoins, le service a adapté l'aide qu'il pouvait fournir. Et à ce titre, l'élément militaire de réanimation du service de santé des armées a été déployé sous d'autres formes que celles sous laquelle il avait été déployé à Mulhouse, dans les territoires d'outre-mer, que ce soit à Mayotte, dans les départements d'outre-mer, pardon, que ce soit à Mayotte ou encore en Guyane ou en Guadeloupe.
Et enfin, parce que c'est aussi pour ça, enfin, la médecine militaire est arrivée sur le devant de la scène pour ça, parce que le SSA a été mobilisé, mais au-delà, parce qu'il y avait l'idée, il y avait cette idée que c'était une situation complètement exceptionnelle. On a beaucoup mobilisé la notion de guerre à ce moment-là, vraiment littéralement à toutes les sauces, mais aussi de médecine de guerre, quand il s'agissait de dire que les services étaient débordés, qu'on n'arrivait pas à soigner efficacement les patients qui arrivaient. Et ma question, c'est vous qui savez ce que c'est, littéralement, que la médecine de guerre, vraiment, c'est ce qu'on fait quoi, quand on est au plus proche du contact, c'était la médecine de guerre? Est-ce qu'il y a des choses qui vous y ont fait penser, vraiment? Est-ce que c'était juste l'urgence? Est-ce que c'est simplement la médecine de guerre? Pour les gens qui n'ont jamais vu concrètement ce qu'était vraiment la médecine de guerre, donc une sorte d'hyperbole pour symboliser en quelque sorte le fait qu'il y a eu un débordement à un moment, quoi.
Alors, c'est pas une médecine de guerre dans le sens où on n'est pas dans un conflit armé, on n'est pas dans une guerre, on est dans une lutte contre le coronavirus, mais à ce titre, on peut retrouver certains éléments similaires à l'emploi de la médecine de guerre, que sont une situation de crise, que sont une situation urgente, que sont une situation où finalement on a un afflux massif, non pas de blessés, mais là un afflux massif de malades. Et donc, de par ce fait, les capacités d'organisation, de déploiement rapide et vraiment comme des harpons, si vous voulez, des équipes du service de santé des armées, s'est appuyé effectivement sur l'expérience accumulée dans les conflits armés pour la médecine de guerre. Mais on ne peut pas parler stricto sensu de médecine de guerre en l'appliquant à cette crise sanitaire qui est liée à une menace virale.
Oui, mais je ne sais pas, par exemple, dans les situations d'urgence, alors vous, c'était un truc ad hoc, quoi, mais dans les situations d'urgence, dans les hôpitaux qui trient les gens, enfin, on dit qu'on ne l'a pas vraiment fait, mais il y a eu quand même un moment où il a fallu hiérarchiser les priorités dans les hôpitaux civils, notamment avec les services de réa qui débordaient à un moment. Cette idée qu'il faut hiérarchiser, on ne peut pas traiter tout le monde parfaitement, c'est un truc qui peut rappeler des situations d'extrême urgence, de situations de conflit, quoi.
Oui, tout à fait. Et une fois de plus, lorsqu'on a affaire à un afflux massif de malades ou un afflux massif de blessés, mais on a une habitude de triage. voilà, c'est-à-dire de catégorisation et d'organisation de la prise en charge selon des priorités. Et donc effectivement, mais du triage finalement on en fait tous les jours, vous savez, dans les hôpitaux, qu'ils soient militaires ou civils, la nuit, lorsqu'il y a un patient qui se présente avec une appendicite aiguë et que dans le même temps, il y a un patient qui se présente avec une fracture ouverte et qu'il n'y a qu'un seul bloc opératoire disponible, c'est déjà du triage.
Très bien. Merci beaucoup, médecin-chef Pasquier.
Merci à vous.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos appréciations, noter, commenter le podcast sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud, et nous, ou nous écrire plus longuement, le cas échéant, par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, que tout ça nous est toujours agréable et utile à lire, tant pour l'évolution de l'émission que pour rendre le podcast plus visible, même si c'est évidemment aussi et surtout par bouche à oreille que tout ça fonctionne. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.